Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec l'équipe d'Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4. Le mois dernier, Bissi, Léa et Lisa vous concoctaient une émission sur l'avortement. Et pour l'occasion, on avait fait appel à vos histoires. Timing serré oblige, on n'avait malheureusement pas pu diffuser tous vos témoignages lors de cette émission de novembre. Sauf que votre parole est précieuse, libératrice et nécessaire. Alors, toute l'équipe s'est mise d'accord pour faire honneur à vos vécus et à votre parole, et on vous propose donc aujourd'hui de retrouver la deuxième partie de vos témoignages. On vous prévient, certains de ces témoignages relatent des expériences difficiles d'avortement. Mais on est extrêmement fiers et reconnaissantes de la confiance que vous nous avez accordée en nous les partageant. Alors du fond du cœur, merci. Alice au montage accompagnera vos récits d'une lecture d'Audrey Lorde et de notre habituelle sélection musicale. Merci Alice. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais vous rappeler les mots de Simone de Beauvoir, tristement d'actualité. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. 2020 n'aura malheureusement pas dérogé à la règle.
Belgique, juillet 2020.
La proposition de loi sur l'interruption volontaire de grossesse a été renvoyée une 4e fois au Conseil d'État. Le CDNV, la NVA, le Vlaams Belang ont disposé 3 amendements et ils ont tenu le report du vote à la rentrée.
Irlande, mai 2018.
Oui à la libéralisation de l'avortement. Les Irlandais se sont prononcés selon les résultats définitifs du référendum. Ils sont 66,4% à s'être exprimés en faveur de la fin de l'interdiction de l'IVG. L'écart entre le oui et le non est plus large que ce qu'avaient anticipé les enquêtes d'opinion durant la campagne.
États-Unis, janvier 2017.
Aux États-Unis, des dizaines de milliers de militants anti-avortement ont manifesté ce vendredi à Washington. Ce rassemblement appelé « Marche pour la vie » a lieu chaque année depuis 1973, date de la légalisation de l'avortement. Mais il a pris cette année un relief particulier avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le nouveau président a donné des gages aux opposants à l'avortement. Un de ses premiers décrets a ainsi consisté à interdire le financement des ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Autre gage donné aux militants anti-IVG, la présence parmi les manifestants du vice-président lui-même. Mike Pence s'est exprimé à la tribune pour saluer les milliers de personnes mobilisées à travers le pays. « La vie est à nouveau en train de gagner en Amérique », a-t-il lancé.
« Life is winning again in America ».
Espagne, décembre 2013.
La majorité des Espagnols s'y opposent, mais cette poignée de manifestants défend le projet controversé de réforme de l'avortement. Le gouvernement conservateur va soumettre un texte limitant drastiquement le droit à l'IVG, permis uniquement en cas de viol ou de danger grave pour la santé de la femme ou du fœtus. Les associations féministes et la gauche appellent à la mobilisation pour faire barrage au projet qui a toutes les chances d'être adopté. Le Parti populaire au pouvoir est majoritaire au Parlement.
Mmh. Pologne, octobre 2020.
C'est l'une des plus grandes manifestations jamais organisées en Pologne depuis l'arrivée au pouvoir du parti ultra-conservateur Droit et Justice en 2015. Près de 100 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale Varsovie vendredi pour protester contre l'interdiction quasi totale de l'avortement en passe d'être décidée dans le pays.
Corée. Avril 2019.
Le point levé, ces femmes ont gagné. C'est officiel, l'avortement devient légal en Corée du Sud. Son interdiction a été jugée anticonstitutionnelle par la plus haute juridiction du pays.
France, marche pour la vie de 2018.
Nous ne voulons ni avortement, ni euthanasie, ni tri, ni congélation, ni manipulation de l'embryon.
Argentine, décembre 2020.
Resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones.
Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
Ça s'est passé en 2014. À l'époque, j'étais mariée et nous avions déjà une petite fille de 3 ans. Nous n'étions pas a priori fermés à l'avenue d'un autre enfant. Je suis tombée enceinte par accident, oubli de pilule. Involontaire, je précise. Ça n'allait pas très bien entre mon mari et moi à ce moment-là, aussi j'ai attendu un mois complet avant de lui annoncer. J'avais de l'appréhension sur sa réaction. À raison, vu la suite. Je voulais être sûre de ma grossesse. Une fois sûre, je lui en ai parlé. Sa première réaction a été assez mauvaise. De la surprise, mais pas forcément bonne. On a parlé et finalement convenu ensemble de le garder, étant donné notre situation, mariée avec déjà un enfant. Nous sommes donc montés annoncer la bonne nouvelle à notre fille, qui était ravie. En redescendant, j'oublierai jamais cette scène. J'ai dit « Super, on le garde ?» Il a répondu « Je sais pas. » À cet instant précis, j'ai compris que l'avortement serait la finalité, la meilleure solution. On s'est disputé, moi ne comprenant pas cette phrase, alors que l'annonce venait d'être faite à notre fille 2 minutes avant, lui me disant que j'avais agi volontairement, que je voulais lui faire un enfant dans le dos, comme on dit. Pas longtemps après, je ne sais plus exactement si ça se compte en heures ou jours, je lui ai fait part de ma décision d'avorter. Il était triste et en même temps soulagé, je pense. Il s'est contenté d'être odieux. J'ai pris rendez-vous pour avorter. Et j'ai dû rester enceinte un mois de plus, le délai médicamenteux étant dépassé et l'aspiration pas encore possible. Pas assez gros. Ça a été horrible ce mois. J'ai essayé de partager ma détresse avec lui, il n'a rien voulu entendre. Il m'a rejeté toute la responsabilité. On a dit que tu avortes, en gros. Je vous passe les détails. J'ai vécu un conflit intérieur très douloureux. Je voulais vraiment cet enfant. Je me suis toujours vue avoir au moins 2 enfants. J'ai une sœur avec qui on est très proche, de cœur et aussi en âge. 14 mois d'écart. Je suis arrivée par accident, moi aussi. Retour de course. Ma mère est retombée enceinte 5 mois après l'arrivée de ma sœur. Ma mère a voulu avorter elle aussi à l'époque. Mon père l'a convaincue de me garder. Je suis donc arrivée et ma mère a raté mes 6 premiers mois et 6 mois de la vie de ma sœur aussi. Un passage en psychiatrie. Je ne lui en veux de rien, on fait ce qu'on peut avec ses capacités. J'ai inévitablement fait un parallèle avec ma propre situation de mère et j'ai eu l'impression de m'avorter de moi-même. De faire ce qu'elle n'avait pas trouvé le courage, car il en faut, croyez-moi, de faire. Je suis allée avorter seule, sans lui. Le jour J, j'ai dit « Bon, ben, j'y vais ». Il a répondu « Si, c'est la meilleure solution ». Comme si c'était entièrement ma faute et que lui subissait cette situation. À l'hôpital, ça s'est bien passé. Ils ont été présents et rassurants. Dans le bloc, je me rappelle très bien, ils m'ont proposé de prendre une sorte de gaz euphorisant à respirer pour que je me détache de ce qu'on faisait. J'ai répondu « Non ». Je veux me rappeler de ce que je suis en train de faire. Le faire en conscience. J'ai parlé beaucoup à cet embryon entre la découverte de ma grossesse et sa fin, 2 mois plus tard. Je lui ai expliqué et je lui ai dit au revoir. C'était en juin. On a lancé la procédure de divorce en octobre avec mon ex-mari. Ça fait 6 ans maintenant. Je n'ai jamais regretté d'avoir avorté. Car je ne voulais pas vivre une grossesse affreuse avec un homme m'accusant de lui avoir fait un mauvais coup et me retrouver, et lui aussi d'ailleurs, avec un nourrisson qui aurait des parents qui se crient dessus tout le temps, voire même séparés dès son plus jeune âge. C'est trop égoïste. C'est ma vision de la chose. Par contre, j'ai toujours regretté d'avoir dû en arriver là. Et c'est dur à chaque fois que ma fille me dit qu'elle aimerait un frère ou une sœur. C'est comme ça.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non. Non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien 2 victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Je suis tombée enceinte il y a 5 ans et je m'en suis rendu compte lors de ma rentrée en Master 1, donc la première semaine. Ma première semaine de rentrée, donc je venais d'arriver dans une nouvelle ville, je connaissais personne, donc à part mon copain de l'époque qui m'avait suivi, et puis voilà, j'avais pas d'amis ou de famille sur place, ni mes médecins, voilà, mais donc je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à m'inquiéter après une semaine de retard de règles, donc je me suis dit, oh, c'est le stress de la rentrée, c'est pas très grave. Bon, je me suis dit, bon, je suis quand même sous pilule, c'est pas non plus très... très court. Enfin, ça m'était jamais arrivé, quoi, de pas avoir de saignement, voilà, lors de mes règles présumées, on va dire. Et c'était pas un oubli de pilule. J'ai toujours été assez réglée sur ce genre de choses, voilà. Donc, c'était vraiment pas un oubli de pilule. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas vraiment à me projeter sur une éventuelle grossesse, parce que moi, c'était vraiment quelque chose qui arrivait qu'aux autres. J'avais pas de copine à qui c'était arrivé, et puis. J'étais sous pilule, quoi. Donc, pour moi, j'étais protégée et j'avais pas conscience que c'est qu'en lisant après que j'ai appris, quoi, que ça arrivait beaucoup plus que ce qu'on croyait et ce qu'on voulait bien dire. Donc, ça a été un choc parce que, on se retrouve avec ce test de grossesse déjà qu'on n'ose pas forcément faire tout de suite et puis on se dit non, c'est pas possible. Et puis, t'es enceinte, t'as 20 ans ou 21 ans, tu viens de rentrer en Master 1, C'est vrai que moi, je ne me suis pas posé de questions. Enfin, pour moi, c'était évident. Et pour moi, j'étais surtout... le premier truc que je me suis dit, et c'est waouh, j'ai de la chance d'être dans un pays où l'avortement est autorisé. Merci, mon Dieu, quoi. J'ai vécu ça assez sereinement quand j'ai appris ma grossesse en me disant, c'est pas grave. Et puis, on va me conseiller sur notre contraception. Tout va bien se passer, voilà. Et puis bon, après, on réalise qu'on est quand même à 6 heures de route de sa famille, de son médecin traitant, de tout ça. Et puis on se dit, le premier truc qui m'est venu, c'est le planning familial. Donc, j'ai contacté le planning familial. Et on m'a dit qu'avant d'avorter, il y avait quand même tout un processus de rendez-vous, etc. Bon, soit, ok. Donc, manquer mes premiers cours, mes premiers cours dans la semaine de cours. Enfin, voilà, c'était pas trop... Enfin, parce que voilà, c'était quand même des rendez-vous. Enfin, il y en avait, je sais pas, au moins deux ou trois où fallait aller faire une échographie, voir si l'activité cardiaque de l'embryon était valide. Où on te dit votre embryon est valide. Enfin voilà, on projette déjà dans une forme vous allez avoir un bébé. Enfin, je sais pas trop comment dire. C'était pas, j'avais pas l'impression que je venais pour un avortement dans ce genre de rendez-vous, quoi.
Pourquoi on disait ça?
Comme si, en fait, c'était une échographie de datation, je crois que c'était. Et puis, comme si le mec n'était pas censé savoir si j'avortais ou non. Et du coup, en gros, c'était pour me dire, c'est bon, votre embryon va bien. Et je dis, ah oui, mais non, moi, je viens pour un avortement et j'ai pas forcément envie d'entendre ni les battements du. Enfin, c'était pas un cœur, mais voilà, bref. Donc, tout ça, c'est vrai que, les prises de sang, de combien de temps on est enceinte, pas enceinte. Et donc, on m'a fixé deux autres rendez-vous pour une prise de médicaments. Donc, je ne m'étais même pas posé la question. Moi, je me suis dit, je suis encore dans les temps pour un avortement médicamenteux. C'est la bonne solution. Bon, ok. Et c'est vrai que donc, j'étais à quelques jours de la limite pour faire un avortement médicamenteux. Et voilà, à quelques jours près, j'aurais dû faire un avortement, l'acte chirurgical ou quoi. Et je ne sais pas si c'est un acte par aspiration, on dit. Je crois, voilà. Et donc, c'est vrai que même sur ça, on n'est pas du tout aiguillé, quoi. Est-ce que mon choix, c'était plutôt de faire par médicament ou par aspiration? J'en savais rien et puis personne ne m'a rien demandé. Et puis voilà. C'était comme ça, j'étais dans les temps et puis voilà. Et c'est vrai que ben j'aurais peut-être pas fait ce choix-là à ce moment-là en fait, parce que ben on te demande de venir à deux rendez-vous, donc le premier pas forcément accompagné. Et c'est là que où j'ai compris que ça allait vraiment mal se passer pour, enfin en tout cas où c'est là où j'ai compris et c'est ça qui m'a vraiment j'ai le plus mal vécu, c'est la différence entre ce à quoi je m'attendais en étant dans un pays où l'avortement est autorisé, libre, etc. et ce qui se passe vraiment. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment, enfin qui m'a marqué, qui m'a chamboulé profondément, quoi. C'était, ben, on te fait venir à 7 heures du matin pour te faire la morale sur la contraception, sans te demander, ben, dans quel contexte t'es arrivé, pourquoi, comment, et puis pour, voilà, enfin voilà, pour des informations complètement dépersonnalisées, et puis voilà, pour entendre le genre de phrase. Ah, c'est pas parce que vous êtes tombée enceinte à 21 ans sous pilule que vous le voulez pas maintenant que ben, vous pourrez tomber enceinte facilement quand vous le voudrez. Enfin, déjà, t'es là, enfin voilà, t'es quand même, enfin c'est pas anodin. Tu sais que ce jour-là, donc en gros, donc, c'était deux rendez-vous et ce premier rendez-vous, c'était pour prendre le médicament qui tue, si je puis dire, enfin qui arrête l'activité cardiaque de l'embryon. Donc c'est quand même un rendez-vous où voilà, enfin c'est pas anodin. Enfin moi j'avoue que je me suis sentie différente dans mon corps de femme. Je l'ai senti. Enfin peut-être que on vit pas toutes de la même manière et que c'était dans ma tête ou je sais pas. Mais moi je sentais que je portais la vie. Et inconsciemment de dire que ce jour-là t'es toute seule dans un hôpital où tout le monde s'en fout et que tu vas prendre un médicament qui va enlever cette vie, même si tu désires pas l'enfant. Pour moi, c'était un acte presque d'amour envers cet enfant qui naîtra jamais, de ne pas le mettre au monde parce que je n'avais pas les capacités de l'élever, quoi. Donc, ce n'est pas parce que je ne le veux pas qu'il ne s'agit pas de vie. Ou, enfin, voilà. Et donc, on m'a fait venir hyper tôt et j'ai ce souvenir-là qui m'a vraiment choquée. C'est qu'après, donc, j'ai eu un premier rendez-vous où on m'a fait passer assez rapidement avec cette dame du planning familial. Et après, on m'a fait attendre peut-être 3 heures. Dans le cabinet de la gynéco de l'hôpital, dans une salle d'attente donc de maternité, donc avec des bébés qui pleurent, des machins, des bidules, et des landos et des parents et des femmes enceintes. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin, pourquoi on me fait venir si tôt pour me faire mariner comme ça pendant des heures? Donc évidemment, seule comme ça, en plus, enfin, tu viens d'arriver dans une ville, tu commences, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas arrêté de chialer pendant 4 heures dans cette salle d'attente. Non-stop, quoi. Et là, enfin, tout le monde s'en foutait. Et puis, j'allais voir les gens. Je dis, mais c'est pas normal. Cette personne, elle arrivait après moi. Ça fait 4 heures que j'attends. C'est pas normal. Enfin, pourquoi, en fait? Pourquoi? Vous m'avez pas demandé de venir plus tard ou un moment où elle avait vraiment le temps? Je sais pas. La seule personne qui m'a accordé de l'importance, c'était quelqu'un dans la salle d'attente qui m'a donné un mouchoir, quoi. Et puis, mouche-toi, quoi. Bon, voilà. Et après, j'arrive dans la salle d'attente de la gynéco. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est que c'était une femme, quoi. Une femme qui dénigre complètement l'attente que j'ai subie et dans quel état émotionnel je peux être, sachant que je vais prendre un médicament qui va tuer l'embryon que je porte, quoi. Et je dis ça. Enfin, j'avais, enfin, voilà, complètement déboussolée, en larmes, etc. Et elle me dit, oh, ça va, c'est chez vous, larmes, non, c'est rien, c'est un médicament. Et puis, en avant, quoi. Enfin, peut-être que je grossis les traits, je m'en rappelle plus vraiment, mais bon, en gros, c'était un peu arrêtez votre cinéma, quoi. Donc, je prends ce médicament, ça dure 10 minutes, même pas, et je dis, mais je suis tombée enceinte sous pilule, est-ce qu'on peut me conseiller sur un autre contraceptif? Peut-être que ça ne me convient pas. Bon, bah, je vous mets une pilule plus forte, et puis voilà. Évidemment, sous le choc, qu'est-ce que vous voulez protester, quoi? Je ne sais pas, j'ai. Bah, ok, bon, je reviens avec mon ordonnance et mon embryon mort dans le bide, et je marche comme ça chez moi, bon, ok. Et en attente de l'autre rendez-vous qui est 2 jours plus tard pour expulser l'embryon. Donc, cette fois, on te demande de venir accompagner. Et donc, je viens avec mon copain de l'époque. Et donc je me dis, bon, ben, voilà, on va être accompagné. On va, voilà. Bon, j'arrive déjà et personne, c'était à moitié, si elle était au courant que j'avais rendez-vous. Et en fait, ben, l'endroit. Donc, en fait, c'est un médicament qui provoque une fausse couche quand même. Hein, donc, c'est pas anodin. On me met dans le couloir, le couloir de la maternité. Voilà, pour des heures, le temps que ben, mon corps veuille bien faire une fausse couche pour expulser cet embryon, quoi. Donc, au bout de 3 heures, personne qui me vient me voir, rien. C'est toujours rien passé. Je vais voir dans la salle de garde des infirmières sur place, c'était même plus les mêmes. Ah, vous êtes là, ok, bon, ça n'a pas marché, bon, ben, on vous en redonne un autre. Ah, ok, je suis ravie de prendre un deuxième médicament aussi chimique, c'est chouette, quoi, j'aime la vie. Bon, ok, et puis ben, 2 heures plus tard, j'ai commencé à avoir ben, des sortes de contractions, enfin, bon, voilà, un peu des douleurs qui peuvent s'assimiler à des grosses règles douloureuses, et voilà. Et j'ai commencé donc à vouloir en parler avec une infirmière, dire voilà, qu'est-ce qui se passe ça. Elle me fait venir dans les toilettes du couloir, quoi, pour voir bah, si j'avais commencé à expulser. J'avais quelques caillots de sang, rien de machin. Bon, ils m'ont dit, bon, ben, vous pouvez rentrer chez vous, ça a commencé. Ok, j'habitais, en plus, j'habitais pas loin à pied, donc ben, je marche à pied avec mon copain de l'hôpital à chez moi. Et c'est sur le chemin à pied que je sens comme une énorme flaque couler entre mes cuisses. Quelque chose de chaud, gluant, qui m'empêche presque de marcher, quoi. Donc, à savoir que j'étais quand même à 2 jours près d'un avortement par aspiration, quoi. Et donc, je comprends tout de suite que c'était, en fait, ce que j'avais dans ma culotte, c'était pas du tout l'embryon. Enfin, j'avais aucune idée de l'image que ça pouvait avoir. Donc, je continue le chemin tant bien que mal avec ça entre les jambes jusqu'à mon appartement du 2e étage. Et là, ben, je vois mon embryon dans le fond de ma culotte et que je jette à la poubelle, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, j'en parle et ça me choque d'avoir vécu ça comme ça. Enfin, pourquoi on n'accompagne pas les gens dans ce choix-là, quoi. Et encore aujourd'hui, ça fait 5 ans et j'évite d'y penser parce que ça me tue d'avoir fait ça, quoi, comme ça, dans un couloir, et de l'avoir jeté à la poubelle, quoi. Et surtout, ce qui m'a manqué, c'est de me dire pourquoi on n'en parle pas. Pourquoi il n'y a pas des. Pourtant, j'allais chercher, des forums, chercher avortement, enfin voilà, pour essayer de voir qu'on en discute et tout ça. Mais à chaque fois, c'était hyper édulcoré ou j'ai l'impression qu'on ne racontait pas les vraies choses. Je me dis, c'est pas possible qu'il y ait autant de décalage entre mon vécu et ce qu'on croit. C'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai jamais osé. Enfin, à un moment donné, j'avais commencé limite à vouloir écrire des lettres, des machins, voire me plaindre presque contre cet endroit, ce planning familial, cet hôpital. Enfin, après, je me dis, bon, ben, j'ai jamais eu le courage ou l'envie ou de creuser ça, donc je sais pas. Et puis, c'est surtout l'après, quoi, aussi. On te dit pas, ben, peut-être qu'il faudrait que vous achetiez des protections hygiéniques XXL, vous allez perdre du sang pendant 10 jours. Psychologiquement, ça a été très, très dur. Heureusement que je me suis raccrochée, ben, j'avais mes études, tout ça qui fonctionnait, mais c'était aussi même que les hommes en savent aussi. Enfin, je sais pas, je pense pas que ça soit un cas général, mais mon copain de l'époque, c'était un peu comme si tu allais chez le dentiste, quoi. Et j'avais l'impression que pour tout le monde aussi. Bon, bah, ça va, comme si c'était un acte anodin. C'est un choix, déjà, vous avez bien de la chance, hein, donc vous n'avez pas en plus vous en plaindre, quoi. Et voilà, en fait, moi, c'était surtout, voilà, ce qui m'a remarqué, c'est la différence entre ce qu'on croit être un pays libre de droit de l'avortement, etc. Et ce qui s'y passe, quoi. J'en parlais à ma grand-mère, c'était limite si on a eu la même expérience d'avortement, parce que voilà, après tu en discutes autour de toi, tu te rends compte qu'en fait tout le monde connaît quelqu'un, l'a vécu, mais que ça se parle pas, ça se partage pas, ça se dit pas. Et oui, ma grand-mère qui a 50 ans d'écart avec moi a vécu la même expérience d'avortement que moi. On en est là. Donc oui, c'est un droit, c'est un avancement, c'est super qu'on ait ce droit-là, mais il y a encore énormément de travail à faire sur comment c'est pris en charge et comment on le partage et puis comment, entre femmes, ben, on arrive à en parler et être bienveillante. Parce que moi, je me suis rendu compte moi-même que ça a chamboulé le regard que j'avais sur les gens qui avaient recours à l'avortement. Pour moi, c'était presque « Ah, ben, c'est qu'elle n'a pas fait attention avec toute la contraception qu'on a aujourd'hui ». En fait, au-delà de ça, c'est que de un, c'est même pas qu'une question de contraception, et c'est que même si la personne n'a pas fait attention, c'est un droit fondamental et qu'il faut accompagner. Suite à ça, moi, j'ai continué de prendre cette fameuse pilule plus forte pendant des années. Bon, peut-être pas des années, peut-être 3 ans, avant que j'arrive à me réapproprier ça aussi. Me réapproprier ma contraception, me réapproprier Oui, c'est pas qu'un médecin qui va me dire prenez ça parce que sinon vous retomberez enceinte. Ben voilà, dans ma tête, c'était je suis tombée enceinte sous pilule, je dois prendre cette pilule plus forte, sinon je vais devoir revivre tout ça, quoi. Alors que non, et voilà, heureusement, il y a de plus en plus d'écrits, de livres, de choses autour de ça, on en parle, il y a plein de choses. Et après, je me dis, j'imagine qu'il y a encore pire, quoi, c'est ça le pire. Des gens, en plus, voilà, c'est ça, toi, t'es là, t'es quelqu'un de privilégié, tu vois, blanche, privilégiée, etc. Et j'imagine ce que vivent d'autres personnes, quoi. C'est ça que je me dis aussi. Et là, si moi-même je vis ça, qu'est-ce que c'est pour d'autres personnes, quoi. Moi, c'est ça qui m'a fait mal quand j'ai réalisé ça, en fait. J'ai l'impression que quoi que je choisisse, élever un enfant en plein master 1, 2, etc., sans thune et tout ça, c'est aussi mal vu que d'avorter, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, en tant que femme, face à ce choix-là, ben, quoi que tu fasses, il ne sera pas respecté ton choix. Il ne sera pas bienveillant, on n'aura pas un regard bienveillant sur ce que... Dans tous les cas, c'est comme si tu avais encore ce regard du péché original coupable, et on a encore ce regard-là. C'est la femme qui porte en elle ce truc, et voilà, que tu avortes ou que tu décides de garder l'enfant, en tous les cas, on te regardera à travers, quoi. C'est comme si, en fait, on commençait à partager la question autour de l'avortement que quand on le vivait. Pourquoi on n'en parle pas avant? Pourquoi on libère pas la parole autour de ça aussi? Parce que c'est comme si c'était réservé à celle qui avorte, comme si, enfin voilà, même moi, avant de le vivre, j'avais cette image-là, voilà, de la personne qui avorte, c'est forcément qu'elle a pas fait, voilà, j'ai déjà raconté, mais qu'elle a pas fait attention, ou si, là, mais non, en fait, la personne qui avorte, c'est parce que c'est un choix, et que c'est comme ça, et qu'il y a aucune remise en question à voir, et surtout, il y a de la bienveillance à apporter, et pour ça, je pense que c'est ça part du dialogue. Du dialogue, de l'échange, du partage autour de ça, et que ça soit plus une question taboue, que ça soit du coup l'idée, pas de la banaliser comme si c'était à l'échelle dentiste, mais pour moi c'est lié à la vie de femme, à je sais pas, créer une nouvelle façon de prise en charge, quoi. Mais en fait, c'est de moi, enfin voilà, quand je vis ça, c'est de faire en sorte que chacun puisse le vivre dans les meilleures conditions possibles, quoi. Que ça soit juste prendre un médicament et tant pis s'il n'y a pas de suivi, ou si j'ai besoin plus de temps, un espace un peu plus confortable, ou je sais pas, ou respecter le fait que c'est pas anodin comme acte. C'est autorisé, mais c'est pas c'est un droit fondamentale, mais c'est pas anodin, quoi. Je pense que ça a accéléré le fait que je m'intéresse beaucoup plus aux alternatives en termes de contraception, de sexualité, et du fait que qu'en tant que femme, voilà, on a quand même pas mal de charges supplémentaires, soit la charge contraceptive, etc. Et je pense qu'en fait, cette expérience-là m'a permis de m'intéresser peut-être plus rapidement que ce que j'aurais pu le faire à ces sujets-là. Et à me dire que c'est important qu'il y ait une parole, une voix, ou je sais pas, quelque chose sur l'espace public disponible pour et tout type de discours disponible pour toutes les personnes qui traversent ça, quoi. Mais parce qu'après, c'est ça. Après, tu as un rendez-vous, un dernier rendez-vous. Peut-être un mois après, qui une échographie pour dire ah, c'est bon, c'est vide, tout est vide, il n'y a plus rien, c'est bon, quoi. Et évidemment, c'était le choix que tu avais fait, mais en fait, moi, j'enlève pas ce que j'ai eu du mal à accepter aussi. C'est pas parce que c'est un choix que tu le vis bien. C'est parce que c'est un choix, oui, je veux pas d'enfant, que tu vis bien le fait d'avoir créé la vie puis la mort, quoi. Enfin, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. C'est pas que j'ai créé la mort, mais dans mon corps, j'ai ressenti, quoi. J'ai ressenti le fait que c'était vivant, puis je l'ai vidé, et c'était de mon fait, quoi. Donc, moi, j'ai eu tout un truc autour de la culpabilité, autour de ça, même si ça n'a pas lieu d'être, mais je l'ai ressenti profondément, quoi. Que c'est pas parce que tu l'as choisi que tu vas bien le vivre, quoi. Et c'est pas grave. Avec du temps et du partage et de l'écoute, ben, ça va aller, quoi. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir affaire à des personnes qui ne savaient pas ce que c'était d'avorter. Qui ne savaient pas ce que c'était d'accompagner quelqu'un en train d'avorter. Et moi, ça m'avait frappé, quoi. Je veux dire, à quelle heure tu me dis que dans 10 ans, quand je voudrais des gosses éventuellement, ben, je ne pourrais peut-être pas en avoir. Pourquoi tu me dis ça maintenant, quoi? Moi, je voulais parler de contraception, du fait que ça va bien se passer et que vous allez être là pour moi, quoi. J'ai pas envie de parler de ma fertilité, j'ai pas envie de parler du fait que j'ai été inconsciente ou pas inconsciente, parce que c'est pas le sujet. Que tu sois inconsciente ou non, t'as le droit d'avorter. Pourquoi tu me fais la morale? Puis moi, c'est ça, à la limite, je me justifiais, je suis tombée enceinte sous pilule et tout. Ça devrait même pas être un argument. Et c'est ça qui m'a marquée, quoi. Pourquoi tu t'adresses à moi comme ça? Pourquoi? À la limite, j'ai envie de dire, est-ce que tu sais ce que c'est? Même si tu l'as pas vécu, et tant mieux pour toi, ou tant pis, je sais pas. Pourquoi? À quelle heure tu t'es dit que c'était une bonne idée de t'adresser à moi comme ça, quoi? Un embryon, un enfant, un bébé, enfin bref, on appelle ça comme on veut, ça se fait quand même à deux. Et pourquoi c'est la fille qui avorte, voilà, qui a cette image-là de fille inconsciente, qui a forcément oublié sa contraception ou qui fait pas attention, etc. Alors que bah oui, ça peut arriver plus souvent qu'on le croit à des personnes qui prennent un contraceptif. Et ça remet pour moi sur la table le débat aussi de la charge contraceptive. Pourquoi c'est à la femme de faire attention à la contraception tout le temps, et que c'est quand même de plus rare, même si on entend de plus en plus parler, que l'homme va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe pour la contraception. Et donc, pour moi, c'est un sujet encore plus vaste que juste est-ce qu'on a le droit ou pas d'avorter. Non, c'est à la femme, et c'est elle qui est pointée du doigt, et c'est encore à elle de faire des efforts sur la contraception. C'est une charge financière, c'est une charge... c'est une charge contraceptive, c'est une charge qu'on a sur les épaules, de prise en charge, de tout. Et c'est encore à nous de souffrir, etc., quand on choisit de ne pas forcément mener à terme une grossesse, quoi. Leave your face at the door. Turn off your swag and check your bag. From your limbs to your Timbs, get down. But whatever you do, hey, don't fuck with my groove. Whatever you do, don't fuck with my groove. Whatever you do, don't fuck with my groove. Whatever you do.
You better bring yourself. yourself.
Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un retard de règles de plus ou moins une semaine quand je suis partie en Inde. Et avant de partir, j'avais cette intuition que j'étais probablement enceinte, parce que j'ai pas souvent de retard de règles. Et pendant le trajet en avion, j'ai eu de fortes nausées et des vomissements qui sont complètement inhabituels pour moi. Donc ça a plus ou moins confirmé mon intuition. Mais j'ai très vite pris la décision de pas le garder et de m'en occuper quand je rentre en Belgique, parce que je voulais pas me confronter au système médical indien. Je savais pas comment j'allais être reçue, je savais pas comment ils gèrent ce genre de demande. Et vu la différence culturelle, j'avais pas envie de tenter le coup. Mais plus tard, en fait, j'ai eu une grosse intoxication alimentaire. C'était pas la première fois, donc j'ai l'habitude de la gérer, particulièrement avec des plantes. Le souci, c'est que toutes ces plantes que j'avais prises étaient abortives. Et que donc je savais qu'en les prenant, je risquais de déclencher un avortement. Donc le choix s'est imposé à moi, j'ai décidé de me soigner. Ça n'a pas été facile quand même de commencer à les prendre, mais voilà, je l'ai fait. Et une fois la nuit passée, j'ai commencé à avoir des crampes énormes qui n'étaient pas liées à mon état d'intoxication. Et en effet, quand j'ai retiré ma cup, parce que j'avais mis ma cup en prévention, c'est clair qu'il n'y avait pas que du sang, et que clairement quelque chose de minuscule était présent. Ça a été un choc énorme, en fait, de le voir. Ça a été un choc énorme de me dire qu'en fait je l'avais fait moi-même, que j'avais ce pouvoir de créer, mais aussi ce pouvoir de prendre la vie. Et ça a été ça m'a changé complètement. Ça a changé complètement ma perspective sur mon pouvoir de femme, que j'étais pas dépendante d'un système médical qui n'est pas toujours correct avec les femmes, et avec surtout les demandes d'avortement. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment la chance d'avoir pu procéder comme j'avais envie de procéder, et d'avoir pu le faire en me respectant et en respectant mon choix, et sans avoir à rendre de compte à quiconque. J'avais aussi cette chance d'être dans un endroit magnifique, donc j'ai pu faire un rituel de deuil dans le Gange, c'est la rivière sacrée en Inde. Et puis ça a fait un cycle d'un an avant d'avoir vraiment pu terminer mon deuil. Un cycle d'un an avec des pensées, des hauts, des bas. Mais j'avais vraiment décidé de juste accepter ce qui était. Et maintenant, je suis vraiment en paix avec ce que j'ai fait, avec ce qui s'est passé. Je suis vraiment reconnaissante de ma situation. Je sais que je suis chanceuse par rapport à d'autres.
Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce, même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Parce que parler m'est bénéfique, d'abord et avant tout. Pendant ces 3 semaines, j'ai été forcée de me regarder, de regarder ma vie, à la lumière crue de l'urgence, expérience dont je suis ressortie secouée, mais bien plus forte. De nombreuses femmes, certaines d'entre vous aujourd'hui ici, ont fait face à ce genre de situation. Ce que j'ai ressenti au cours de cette période m'a aidé à élucider bien des questions sur ce qui peut transformer le silence en paroles et en actes. De quoi avais-je donc eu si peur? Dans mon esprit, poser des questions ou parler signifiait souffrance ou mort. Pourtant, nous souffrons toutes, de bien des façons, tout le temps. Et la souffrance se transforme ou s'achève. Peu importe si je n'ai pas dit ce qu'il fallait. Si je me suis trahie par toutes sortes de petits silences, remettant ma parole à plus tard ou comptant sur une autre pour parler à ma place. J'ai alors commencé à discerner en moi une source de puissance qui vient de cette connaissance. Bien qu'il soit préférable de ne pas avoir peur, savoir relativiser la peur me donne une très grande force. Mes silences ne m'avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis entrée en contact avec d'autres femmes. Et ensemble, nous avons recherché des paroles s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Et ce sont l'intérêt et le soutien de toutes ces femmes qui m'ont donné la force et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie. Les femmes qui m'ont soutenue pendant cette période étaient noires et blanches et vieilles et jeunes, lesbiennes, bisexuelles et hétérosexuelles. Et nous avons toutes pris part à cette guerre contre les tyrannies du silence. Sans la force et l'attention de toutes ces femmes, j'aurais pas pu survivre indemne. Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtre jusqu'à vous rendre malade à en crever en silence encore? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici, aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Et bien sûr, j'ai peur. Car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste en silence. Parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole, et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. » Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore d'être repéré. Peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Or, cette visibilité qui nous rend tellement vulnérables est la source de notre plus grande force. Car le système essaiera de vous réduire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes comme des tombes, nous pouvons nous taire dans nos abris, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur. Si nous sommes toutes là aujourd'hui, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, nous partageons un même engagement envers le langage et le pouvoir des mots. C'est parce que nous sommes décidés à régénérer cette langue instrumentalisée contre nous. Pour transformer le silence en parole et en acte, il est fondamental que chacune de nous établisse et analyse sa place dans cette transformation et reconnaisse le rôle vital qu'elle joue. Pour celles qui écrivent, il est nécessaire d'examiner minutieusement non seulement la véracité de ce que nous disons, mais encore la véracité du langage que nous utilisons. Pour d'autres, il s'agira de partager et aussi de transmettre ces paroles qui font sens pour nous. Mais plus que tout, il est primordial pour nous toutes de montrer l'exemple en vivant et en nommant ces vérités auxquelles nous croyons et que nous détenons au-delà de notre entendement. C'est seulement ainsi que nous pourrons survivre, en prenant part à ce processus vital, créatif et continu, et qui s'appelle grandir. Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons chacune prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Nous ne devons pas nous cacher derrière les simulacres de division qu'on nous a imposés et que nous faisons si souvent nôtres. Nous pouvons apprendre à travailler, à parler malgré la peur, de la même façon que nous avons appris à travailler, à parler malgré la fatigue. Car nous avons été socialisés pour respecter la peur bien plus que nos propres besoins de parole et de définition. Et à force d'attendre en silence le moment privilégié où la peur ne sera plus, le poids de ce silence finira par nous écraser. Le fait que nous soyons ici ensemble, et que je prononce ces paroles, est une tentative de briser ce silence, et de construire des ponts entre nos différences. Car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés.
transformer le silence en paroles et en actes. Audrey Lorde.
Alors, dans mon cas, voilà, j'avais un stérile et cuivre depuis déjà 2 ans, qui était là pour 5 ans normalement, quand je suis tombée enceinte. C'était plusieurs malchances, puisque bon, j'avais donc ce stérilet, mais en plus, il y a eu un problème avec le préservatif. Et donc, du coup, moi, je me suis pas rendu compte que j'étais enceinte, puisque dans ma tête, c'était pas possible. Et j'avais justement été faire un test pour les MST à la suite de ce problème avec le préservatif, en me disant, enfin, pour vérifier ça, mais j'ai pas du tout pensé à regarder si j'étais enceinte, puisque j'avais ce stérilet. Donc ça, ça a été une chose qui a fait que ça a un petit peu retardé. Donc je m'en suis rendu compte, j'étais à 6 semaines. La première chose que j'ai faite, quand je l'ai appris, c'est appeler le planning familial parce que je venais de perdre mon boulot. Pour moi, c'était très clair que je pouvais pas enfin, être mère à ce moment-là dans ma vie et assumer ça et le vivre bien. Et du coup, j'ai appelé le planning. Et là, on m'a assez rapidement donné un rendez-vous. J'ai vu une gynécologue. La gynécologue, là, ça a été un petit peu spécial parce qu'à un moment donné, je lui ai posé la question, tiens, est-ce que cet embryon va ressentir de la douleur? Et elle m'a dit qu'a priori non, puisque j'allais avorter avant 8 semaines et qu'à partir de 8 semaines, l'embryon a déjà des nerfs et que donc effectivement, si on le détache, ça génère de la douleur à l'embryon même. Et j'étais soulagée et elle a eu l'air choquée que je sois soulagée, donc elle m'a dit oui mais enfin vous vous rendez compte il y a un cœur hein, et le cœur il bat. Et là je me sens que je l'ai regardée en me disant mais enfin bien sûr que je sais qu'il y a c'est quelque chose de vivant. Je faisais vraiment pas de gaieté de cœur. Ça a été très difficile psychologiquement, j'ai été très très triste et en même temps c'était très bizarre parce que comme j'avais probablement beaucoup d'hormones en folie dans le corps, j'étais en même temps très heureuse et très joyeuse et j'avais comme par moments cette joie de d'être capable d'enfanter qui est complètement instinctive et pas de l'ordre de la raison, mais je me souviens que par moments j'étais dans la rue, je me disais oh, ouais, je suis enceinte, tout en sachant très très bien que j'allais avorter, donc c'était assez spécial. Je me sentais un petit peu sur deux plans différents en même temps, c'était vraiment bizarre. Voilà, mon entourage a été vraiment très respectueux, m'a soutenue, que ce soit ma mère, mes amis et mon frère aussi. Donc ça a été vraiment, ils ont été compréhensifs et ils m'ont soutenue. J'ai eu une amie qui a essayé de m'en dissuader, mais qui était très croyante, donc je pense que pour elle c'était très très compliqué. Mais enfin voilà, pour moi c'était très clair que je pouvais pas être mère à ce moment-là. Et mais c'est vrai que le fait que j'ai 28 ans, c'est bête, mais enfin je sentais moi-même un petit peu de culpabilité en me disant bah c'est un âge où tu pourrais si tu avais une autre vie dans une autre vie. Et du coup je sentais quand même la pression un petit peu de ce point de vue-là. C'était pas évident d'annoncer aux gens, enfin même à mes proches, même si j'avais confiance en eux, du fait que j'avais 28 ans, je me disais voilà c'est compliqué. En même temps, voilà, ils me connaissaient assez bien pour savoir que c'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là du tout. C'était même ça m'aurait détruite probablement. Donc ça c'est un petit peu l'expérience que j'ai eue. Par contre, j'ai vraiment beaucoup beaucoup souffert physiquement lors de l'avortement. Comme j'avais un stérilet, il m'avait dit écoutez, vous inquiétez pas, on va vous retirer le stérilet, vous allez faire une fausse couche. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont dû me faire vraiment l'opération avec l'aspirateur et en fait ils endorment peu comparé apparemment aux hôpitaux et on m'a dit à part après mais t'aurais dû aller à l'hôpital, on endort plus et mieux et du coup tu ressens moins la douleur ou pas du tout et ça je ne le savais pas.
I'm serious. Don't delete that.
What about you now? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now.
Seen no ceiling. Come and got, yeah, he kneeling. Audio, I'm top billing. All of my boys dope dealing. Super whack, I'm no villain. Nigga try to take my flow. Who the hell he think he is? I just wanna make my dough. Gotta take care of my kids. And handlebars, handle my beers. RP, there's Odell's. I would never tell no veil. Spit, but I wear no bibs. Nigga try to take my flow. Who the hell he think he is? I just wanna make my dough. Gotta take care of my kids. Just hopped off the plane. About to fuck up the game. Insane in the brain, yeah. Niggas know my name, yeah. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. Ain't your friend, no Willie. No. Broke as a joke, you silly. Yeah. Get right, bitch, I'm Gilly.
Right.
Bitch, I rock like Millie.
Ooh.
Born and raised in Philly.
Queen.
Fuck around and roll like Hilly. Heart so cold, it's jelly.
Yeah.
Stole my style, you guilty. Nigga try to take my flow. Who the hell he think he is? I just wanna make my dough. Gotta take care of my kids. Handlebars, handle my beers. RP, there's Odell's. I would never tell no vibe. Spit, but I wear no bibs. Nigga try to take my flow. Who the hell he think he is? I just wanna make my dough. Gotta take care of my kids. Just hopped off the plane. About to fuck up the game. Insane in the brain, yeah. Niggas know my name, yeah. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now. What about Ebound? Everybody walking like me now. Everybody talking like me now. Heard them who they wanna be now.
Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM avec l'équipe d'Elles en parlent encore, émission féministe de Vie Féminine Bruxelles. Nous venons d'écouter Clones de Tierra Whack, précédé de Non, tu n'as pas de nom d'Anne Sylvestre et de Queens de Dissatisfaction. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Steph pour avoir introduit ce deuxième volet consacré à l'avortement. Et bien sûr, merci à vous qui nous avez fait confiance et nous avez confié vos récits. Toute l'équipe et moi-même sommes fiers et honorés d'avoir pu participer à leur diffusion et quelque part à la libération de la parole qui nous semble primordiale. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces témoignages ainsi que l'ensemble de nos émissions précédentes sur notre SoundCloud, Elles en parlent encore, ainsi qu'en replay sur le site de Radio Panique. Je vous rappelle quelques ressources utiles évoquées dans notre émission précédente qui fournissent des renseignements sur l'avortement en Belgique. Il y a donc les sites internet loveattitude.be, planningfps.be, bruxellesj.be, ainsi que ceux des centres de planning familiaux de vos communes, disponibles aussi par téléphone. Je vous rappelle aussi que le L Festival, festival d'événements lesbiens, bi, trans et féministes organisé par la Rainbow House Bruxelles, est prolongé jusqu'en mars 2021. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.